CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Au Centre d'art contemporain Le Lay à Albi, une nouvelle exposition est ouverte au public. Elle s'appelle Tétouane, Tétouane, Tétouane. En arrivant, il y a deux bannières accrochées sur le musée qui introduisent bien le thème de l'exposition, venir réinvestir le passé colonial de l'Espagne au Maroc avec d'autres imaginaires que le discours dominant. Je retrouve donc Adrien Schindler pour une visite de l'exposition. Adrien, qu'est-ce que tu as voulu dire aux gens à travers cette expo ?
Alors, c'est un projet qui examine le passé colonial espagnol au Maroc, à la fois ses échos dans la société espagnole et aussi et au Maroc également. Mais je pense que c'est aussi un projet, bien qu'il soit si spécifique géographiquement, historiquement, qui, je pense, a beaucoup d'échos avec le propre passé colonial français au Maroc et ailleurs. Donc, je pense que c'est aussi un projet qui ouvre à des questions plus générales sur lesquelles on doit encore se pencher.
Voilà. Et qui est très actuel d'ailleurs.
Complètement.
Et donc ton exposition s'appelle Tétouan, Tétouan, Tétouan.
Exactement. Donc, c'est la structure un petit peu conceptuelle du projet. Donc les trois films ont été tournés à Barcelone, à Madrid et à Tétouan dans le nord du Maroc. Et le point de départ était vraiment de me rendre compte qu'en Espagne, énormément de places, de rues, de quartiers portent le nom de Tétouan. Et je me suis posé la question en fait pourquoi. Et donc effectivement c'est propre, on pourrait dire, au mécanisme colonial d'appropriation de noms ou parfois d'imposition de noms. L'Espagne, après avoir conquis la ville de Tétouan à la fin du 19e siècle, a commencé à nommer beaucoup d'endroits dans la péninsule avec ce nom, comme une forme de revendication de victoire. Et du coup, à Barcelone, on trouve une place Tétouan, où on a notamment tourné une scène importante du premier film. À Madrid, on trouve un quartier qui s'appelle Tétouan de las Victorias, où on tourne aussi plusieurs scènes dans le deuxième chapitre. Et le troisième film arrive finalement à Tétouan, l'original, disons, au Maroc. Voilà.
Et donc oui, donc tu viens interroger un peu comment transcender un peu ce rapport du discours hégémonique de la colonisation versus ce qu'on en fait nous aujourd'hui en tant que contemporains sur notre histoire, comment on se la réapproprie.
Complètement, oui, je pense que la proposition est à la fois d'une part évidemment de se pencher sur ce passé colonial, en tout cas où en Espagne on en parle très peu et je pense qu'il est très peu connu aussi en France. Mais il s'agissait notamment de réinvestir ces lieux. Ça va être de l'espace public, des monuments, des édifices, de les réinvestir et de s'en réapproprier, moi je dis resignifier ces lieux-là qui sont chargés à la fois d'une iconographie coloniale dans certains cas, mais cette idée aussi de comment ça nous traverse, parfois de façon inconsciente. Et le projet, je pense qu'il propose aussi, il y a cette idée que pour moi, c'est comment le passé se manifeste au présent. Je travaille beaucoup avec des documents historiques, mais pour moi, il s'agit aussi de dire, c'est pas uniquement dans les musées, les archives et les bibliothèques qu'on se penche sur le passé, c'est vraiment dans les espaces qu'on transite au quotidien, qui à la fois affectent ce qu'on voit, mais aussi nous affectent dans notre imaginaire, dans notre rapport aux autres, en fait. Mm-hmm. Alors, la première salle, moi, j'aime bien l'appeler une sorte de avant-salle, qui est une sorte d'espace comme un peu un prologue ou une introduction à l'exposition, dans laquelle, en fait, on trouve un ensemble d'assemblages. Il y a cet enjeu d'entrer dans l'imaginaire, l'iconographie coloniale espagnole. C'est des assemblages de documents historiques qui vont de 1860 jusqu'à 1978. C'est une collection personnelle. Et ici, pour moi, il y a une sorte de double enjeu. C'était à la fois de visibiliser, évidemment, ce lourd bagage colonial qui a affecté nos imaginaires. En fait, c'est les mêmes stéréotypes, le même type de caricatures qui ont été répétées et diffusées. En fait, c'est des documents graphiques donc, qui ont énormément circulé. Et je pense que ce type d'imagerie, on la retrouve en France également. Mais donc, il y a une tension puisque ces assemblages, je montre ce type d'image, mais en même temps, ne souhaitant pas répéter la violence symbolique de ces images, des personnes, ou en tout cas de ces stéréotypes représentés. Donc je montre les images tout en les dissimulant. Voilà, donc ces documents historiques sont d'une certaine façon empilés. C'est-à-dire qu'on montre tout en cachant, ou je cache tout en montrant. Là, on est dans la première salle, disons, de la trilogie, avec le premier film. accompagné d'une pièce graphique qui s'appelle les Los Papeles, note pour un film. Los Papeles, c'est les, en espagnol, c'est un double sens, c'est les rôles et c'est les papiers aussi. Et ça, c'est un ensemble d'affiches qui reprennent les codes de l'affiche politique, plaquées au mur, à même, enfin collées au mur, collées à même le mur, avec un ensemble de phrases que, qui ont eu un impact en fait sur ma réflexion sur comment faire ces films.
Des phrases comme le blanc revient toujours pour raconter l'histoire.
Voilà, celle-là, c'est cette affiche, elle est pour moi, elle m'est directement adressée. Disons que c'est en fait c'est un ensemble de questions, de commentaires, de même une amie disait de punchlines qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont aidé à penser la méthodologie la plus juste possible. Voilà, pour je pense c'est bien que tu t'arrêtes là-dessus parce que c'est une question importante, c'est ma positionnalité voilà en tant qu'homme blanc occidental qui s'approche et qui travaille la question coloniale. Donc pour moi évidemment il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup d'angles morts et aussi de crainte de répéter certains types de violences symboliques ou même méthodologiques. Cette série d'affiches, en fait, elle rend hommage à toutes ces personnes qui m'ont aidé dans plein de circonstances différentes à préciser ma proposition. Et c'est peut-être là où on peut s'arrêter aussi justement sur la spécificité de ce projet. Donc, dans chaque ville, en fait, je constitue un groupe de travail de 5-6 personnes en général, en grande partie espagnols d'origine marocaine, parfois aussi des personnes espagnoles alliées aussi au projet, ou dans le cas évidemment du Maroc. Donc la spécificité, c'est en chaque ville, ça va être des agents, agentes culturelles locales, et qui interviennent dans le film par le biais de leur pratique. C'est-à-dire, je fais toujours bien la différence, et c'est là où on parle, c'est évidemment un langage documentaire, mais je déjoue certains codes du documentaire, il n'y a pas d'interview directement. C'est-à-dire que les personnes interviennent dans les films à travers leurs pratiques, leurs outils pour aborder ces questions-là. Ça peut être depuis l'activisme, la recherche, la musique, le théâtre, le cinéma. Moi, je rassemble et je propose des dynamiques à partir de certains documents, dans certains lieux. Mais ces personnes contribuent au film aussi avec leurs propres projets. Peut-être la spécificité du premier film, c'est qu'il se penche vraiment sur l'imaginaire colonial, mais aussi la question du cinéma en Espagne aujourd'hui. Mm-hmm. Quels rôles sont encore donnés aux acteurs marocains ou arabes? Et voilà. Et là, par exemple, c'est une scène sur la place Tétouan où on a recréé une forme de théâtre traditionnel arabe qui s'appelle la halka, et où Abdelaziz El Montassir joue un narrateur qui raconte d'autres histoires, qui parle de deux figures féminines de résistance marocaine. Et finalement, c'est là où, voilà, cette idée de resignifier la place Tétouan, voilà, on crée une autre forme de représentation.
الآن بدأت معركتي الخاصة. قمت بتدريس مواد وأغاني وإخراج مسرحيات وإجراء أبحاث. استخدمت أيضا سلاح آخر وهو الصحف. كنت أكتب مقالات في الصحف اليومية والمجلات عن مواضيع تخص المرأة.
Dans la deuxième salle, le chapitre 2, qui est tourné à Madrid, du coup, chapitre 1 Barcelone, chapitre 2 Madrid, se concentre pour le coup maintenant sur les langages de résistance à travers la musique. Donc à la fois sur des chansons historiques de résistance marocaines, alors du rif, en rifin, ou en darija, ou en arabe classique aussi. Et ici, pour le coup, la structure scénique reprend l'idée de ces panneaux acoustiques, des salles d'enregistrement, les studios d'enregistrement, peut-être dans le passé, souvent en tissu tendu sur des structures en bois. Voilà, et qui est accompagné de deux banderoles qui reprennent aussi à nouveau un peu un langage plus politique ou d'activisme, des banderoles comme de manifestations, sur lesquels écrit un vers d'une chanson de résistance rifaine, donc en rifin et en français, sa traduction.
Et par la suite, j'ai la possibilité de venir changer de langue à l'Institut Cervantes, 13 ans. Alors j'ai un équilibre entre l'Espagne et le Maroc, et je suis rifin, là, je suis vraiment rifin.
Je considère que j'ai plutôt des moments de désir créatif. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de prendre soin je n'aurais pas le tape, etc., à travers le cinéma. Ah non, en tout cas, tel que je ressens les choses, j'ai une vision romantique ou idéaliser des jours un artiste. Je suis OK, ma librairité, les quais, notre émotive, la
jasquette. Troisième salle,
c'est OK, et c'est des mots.
Troisième chapitre de la trilogie, donc on arrive à Tétouan finalement. Ce qu'on voit d'abord, c'est donc la structure, à nouveau une variation sur cette structure, cette fois-ci. Donc l'ossature en bois couverte de rideaux rouges, hein, comme des rideaux de théâtre. Et avant de rentrer, on trouve un panneau en bois sur la gauche, sur lequel sont affichés, à la manière de tracts politiques, des facsimilés de documents de la censure espagnole qui surveillaient en fait la production d'œuvres de théâtre en arabe dans les années 30 à 50. Et mon geste, en fait, est très simple, c'est-à-dire j'ai reproduit ces documents, mais en y ajoutant par-dessus la traduction en arabe. C'est des documents qui étaient dans des archives à Madrid, des documents pendant un temps qui étaient des documents secrets, confidentiels, et qui n'ont jamais été, en fait, montrés au Maroc. Donc moi, dans le cadre d'un festival il y a un an, je les ai imprimés en sérigraphie, en de nombreux exemplaires. On a rajouté la traduction en arabe dessus et je les ai distribués. Et donc pour moi, il y avait cette question aussi de restituer, ou en tout cas de rendre accessible. C'est pour ça qu'avant, on parlait en aparté, mais de la question de la traduction dans mon travail. Pour moi, la traduction, elle a un rôle politique, en fait. Au moment où certains des textes qui composent les films ou les œuvres graphiques ont été traduits pour la première fois, n'étaient jamais traduits en français ou en espagnol ou en arabe. Donc pour moi, la traduction, c'est aussi un geste politique quand on rend accessible des choses qui ne l'étaient pas. Voilà. Et donc on passe les rideaux et on arrive donc sur le troisième film qui est tourné donc à Tétouan et qui est tourné, donc comme on disait, le nom des lieux m'importe beaucoup. Et le dernier film, on arrive à Tétouan, mais il est tourné dans le théâtre espagnol. Entièrement à l'intérieur du théâtre, qui est un théâtre de la fin des années 20, début des années 30, qui est un théâtre assez impressionnant, pompeux, mais en même temps légèrement décadent, qui n'a plus une programmation en continu. Voilà, donc le troisième chapitre, ça, c'est la particularité, c'est qu'on se penche cette fois-ci sur le théâtre de la libération, le théâtre nationaliste marocain, donc dans les années juste avant l'indépendance, et le rôle qu'elles ont joué en fait dans l'indépendance. Voilà. Et finalement, le dernier chapitre, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient, ou on arrive finalement à Tétouan, l'original, à Tétouan, mais le film ouvre immédiatement sur des questions qui dépassent Tétouan lui-même, mais aussi qui donc parle de panarabisme, qui parle d'alliance, de Palestine, d'Égypte. Et la spécificité du dernier chapitre, c'est que j'ai réinvité un acteur du premier chapitre et une actrice du deuxième, une chanteuse du deuxième. Et donc cette idée pour moi était de, plutôt que de clore la trilogie, c'était plutôt de créer une circularité. Et finalement, ça crée un dialogue entre voilà, des personnes de la diaspora, des personnes du Maroc, Nassim qui est né en France mais qui est revenu vivre au Maroc. Donc voilà, ça ouvre davantage. Et dans le dernier chapitre, ça parle peut-être 4 ou 5 langues différentes. Voilà.
C'est riche de diversité tout ça.
Ce dernier chapitre, il est très riche. Il y a beaucoup de références littéraires. Voilà.
Un joli mix entre de l'histoire, de la réflexion, de la poésie, des mains tendues, du lien.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À côté de nous, il y a Muriel Aidé, qui est la chargée de communication du Centre d'art Le Lay. Muriel, est-ce qu'il y aura des événements autour de l'exposition ?
Alors, il y a tout plein de rendez-vous proposés en lien avec l'exposition d'Adrien Schindler. À commencer par des visites commentées et des conférences et des ciné-débats. Mais je vous invite vraiment fortement à revenir le vendredi 13 février, puisque Adrien nous fera le plaisir de revenir vendredi 13 à 20h pour présenter à l'occasion de la parution de son livre, de l'édition Tétouan, 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 qui sera donc présenté ce soir-là. Et pour cette occasion, on projettera aussi le film Les Bad Girls des musiques arabes en présence de sa réalisatrice Jacqueline Coe. Voilà, donc une soirée évidemment où l'entrée est libre, comme toujours au Centre d'art Le Lay.
Hautement musical.
Hautement musical, voilà, et l'occasion de rencontrer l'artiste en personne. Voilà, n'hésitez pas à passer au Centre d'art. Dans tous les cas, l'entrée est libre et gratuite. Et on a des médiatrices sur place qui sont là pour échanger avec vous autour des œuvres. Donc, osez franchir la porte du Centre d'art Le Lay. Merci.
Merci, Muriel.
Merci.
CFM. CFM Radio. CFM Cordes.